Suite de notre série Pour comprendre et débattre sur le thème de la démocratie, on retrouve au micro de Radio PFM Paul Masson. Paul, salut.
Bonjour.
Paul Masson, ancien formateur d'adultes, militant de l'éducation populaire et membre d'ATTAC. Alors, on s'était quitté la dernière fois en évoquant l'après-révolution française. Tu nous avais parlé d'une forme de confiscation de l'idéal démocratique révolutionnaire par une élite républicaine, avec comme exemple, comme illustration, le vote censitaire. Aujourd'hui, tu nous parles des acquis démocratiques progressifs en France.
Voilà, la Révolution avait fait naître la République, il restait à conquérir la démocratie. Et le 19e et 20e siècle vont connaître un certain nombre de luttes pour avoir cette démocratie. Autant dans l'ancienne société, avant la Révolution, la société était structuré autour des classes de naissance. Selon ma classe de naissance, j'avais des privilèges ou je n'en avais pas. Avec la Révolution, elle va être structurée autour du droit de propriété, ce droit inviolable, et l'injustice sociale sera plus liée à la naissance, enfin toujours à la naissance, mais à la naissance non pas par mon titre de noblesse, mais parce que j'arrive dans une famille qui dispose de la propriété ou pas. Et la société va se diviser en gros en trois grandes catégories. Il y a la catégorie des propriétaires qui vont pouvoir investir l'argent, leur bien, et qui ont besoin de main-d'œuvre pour faire fructifier cet investissement. Et cette main-d'œuvre, ils vont le trouver dans le grand nombre de ceux qui n'ont pas de propriété et qui, pour vivre, n'ont plus que leur force de travail à vendre. Et ça va être les deux grandes classes qui vont structurer la société. Il existera d'autres catégories sociales, d'autres classes, des personnes qui disposent, comme les petits paysans, comme les artisans, comme la petite bourgeoisie commerciante, qui, eux, disposent d'un minimum d'outils de travail qui leur permettent de pouvoir vivre de leur travail. Par rapport à cette situation-là, il y a une revendication, il y a un sentiment populaire d'injustice devant cette économie sauvage et un souhait d'une autre répartition des richesses. Que ce ne soit pas seulement une catégorie qui en profite, mais que tout le monde en profite et revendique une république sociale. Au cours du 19e siècle, on va avoir un certain nombre de révoltes pour cette plus juste répartition des richesses. Une des plus connues, une des premières importantes, c'est la révolte des Canuts, 1831-1834. On va avoir à Saint-Étienne, en 1869, la révolte des mineurs qui sera réprimée par le sang à la fusillade du Brûlé, ou la fusillade de Fourmis, cette fois dans le Nord, quelques années après, en 1869, où on va avoir un certain nombre de morts. Voilà donc une lutte de classe qui s'exerce là.
Alors, il y a une date aussi importante dans ces années-là, c'est 1848.
Alors 1848, effectivement, c'est une date importante. C'est une deuxième révolution. C'est le peuple parisien qui descend dans la rue et contraint Louis-Philippe, le roi, d'abdiquer. À ce moment-là, se crée la Deuxième République en février 48, et ça sera l'occasion de conquête démocratique, puisque en février 1848, c'est à ce moment-là que se met en place le suffrage universel. Alors, quand on parle de suffrage universel, c'est suffrage universel des hommes qui ont plus de 21 ans. C'est pas universel. Il va y avoir aussi en 1848 l'abolition définitive de l'esclavage dans les colonies, et on va avoir aussi, lié à ça, le souci de répondre aux aspirations des travailleurs avec les ateliers nationaux qui donnent du travail aux chômeurs. Ça se passe en 1848, en février, mais en juin, les élus qui avaient été élus en février pour mettre en place ça suppriment les ateliers nationaux. Cet acquis de février, ça provoque une nouvelle révolte Et cette révolte, cette fois, est réprimée dans le sang. On estime entre 3 à 5 000 morts à cette occasion-là, plus 1 500 personnes qui sont fusillées sans jugement liées à cette révolte, et un certain nombre d'arrestations, dont déportations en Algérie. On venait de conquérir l'Algérie, il fallait envoyer du monde, et on a fait ça.
Alors qu'est-ce que tous ces événements changent, notamment dans l'idée qu'on se fait de la représentation et du peuple ?
Alors, la représentation du peuple, de la Révolution, au moment de la Révolution, le peuple c'était qui ? C'était tous les citoyens, c'était tout le monde. Et on avait l'idée que les représentants du peuple, en négociant, travaillaient pour le bien commun de tout le monde. Mais la révolution de février et sa répression laissent apparaître qu'on ne travaille pas pour l'intérêt de tout le monde, puisque les républicains s'en prennent au peuple quand ils revendiquent plus de justice sociale. Donc on va avoir une autre représentation, et le mot peuple va désigner à ce moment-là l'ensemble des travailleurs, l'ensemble des artisans, l'ensemble des chômeurs, la classe ouvrière, celle des petits paysans, qui s'opposent à l'ordre des bourgeois qui bénéficient du système. Le mouvement qui va naître, le mouvement d'émancipation, la recherche d'émancipation, va prendre des formes de courants multiples. C'est à ce moment-là on va les qualifier de socialistes, mais quand on dit socialiste maintenant, ça représente quelque chose de précis, tandis qu'à ce moment-là, c'était cette revendication sociale à une république sociale. Et le combat pour la démocratie, à partir de ce moment-là, va se confondre avec les luttes émancipatrices. Alors, parmi ces luttes émancipatrices, celle qui est mise en avant jusque-là, c'est la lutte des classes entre la bourgeoisie propriétaire et la majorité des gens qui n'ont que leur force de travail. Mais la lutte pour la démocratie, ça va être rejoint par exemple la lutte des femmes par rapport à l'ordre patriarcal. Les femmes n'ont pas le droit de vote. Et il va falloir toute une lutte pour s'émanciper. Ça va être aussi les luttes des peuples colonisés qui vont chercher à s'opposer au joug colonial. C'est aussi une lutte démocratique. Et puis, les luttes des minorités opprimées, que ce soit des immigrés, que ce soit les homosexuels, les handicapés, enfin toutes les luttes émancipatrices et les luttes pour la démocratie sont étroitement liées.
Alors si on revient au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, là, il y a aussi une expérience éphémère en France qui est aussi un marqueur important. Des conquêtes démocratiques peut-être, ou en tout cas une expérience démocratique à part dans l'histoire de France, c'est la Commune de Paris.
Effectivement, la Commune de Paris, elle a duré 72 jours, ça n'a pas duré énormément, mais ça a vraiment marqué parce que, entre autres, au niveau démocratique, on va expérimenter une forme de démocratie directe avec délégation. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas tout le monde, ne faisait pas n'importe quoi, mais il y avait des délégations, mais les délégations de l'Assemblée municipale, les personnes étaient responsables et révocables à tout moment. Ils étaient là pour faire quelque chose qui leur était demandé dans le cadre de la lutte du peuple. Et cette forme de démocratie directe, avec mandat révocable, va être une expérimentation de démocratie autre. Il va y avoir aussi une démocratie économique qui va se faire jour à l'occasion de la Commune de Paris, parce que à ce moment-là, un certain nombre de propriétaires d'entreprises au moment de la Commune fuient et vont rejoindre les Versaillais, et l'entreprise reste comme ça. Et à ce moment-là, ça va être les travailleurs, sous forme de coopérative, qui vont décider de l'économie. C'est une forme de démocratie économique qui, jusque-là, n'existait pas.
Alors, si on revient aux grandes étapes de conquête démocratique, quelles sont-elles au cours de ce 19e siècle et puis après ?
Alors, il y a deux domaines. Il y a d'abord le droit d'élire ses représentants. On va avoir 1848 où les hommes ont le droit d'élire leurs représentants. C'est le suffrage, ce qu'on a appelé le suffrage universel. Pour ce qui est des femmes, Eh bien, il faudra attendre 1944, un siècle et demi après la Révolution, pour qu'elles aient le droit d'élire leurs représentants. Mitterrand, en 81, dans son programme, avait aussi proposé vote des étrangers pour les élections municipales, dans la mesure où ils étaient en France depuis un certain nombre d'années. Et cette mesure de Mitterrand n'a jamais été mise en place. Alors ça, c'est déjà élire ses représentants par rapport à la démocratie représentative. Mais la démocratie, ce n'est pas seulement élire ses représentants. C'est aussi les droits d'expression, la presse libre, la liberté de publier, la liberté de penser et le droit de s'organiser librement. Et là, le code Napoléon, le code civil de 1804, avait bloqué un peu tout ça. Contrôle de la presse, contrôle des publications, prohibition des associations de plus de 20 personnes, tout ça c'était interdit. Il va falloir attendre la Troisième République, presque un siècle après la Révolution, pour disposer du droit de grève, 1864, pour disposer des libertés syndicales, les lois Valdecrousseau, 1884, pour la liberté d'association, la loi 1901. Donc on voit arriver tout ça progressivement sur un siècle et demi, les grands moments d'avancée, parce que ça ne se fait pas progressivement, ça se fait par étapes et par paliers. Et les grands moments d'avancée démocratique sont toujours liés à de forts moments de mobilisation populaire. C'est 36, c'est la libération, c'est 68, et dans la mesure où ça se conjugue avec la légitimité des urnes, c'est-à-dire que les urnes vont dans le même sens, ça renforce ce mouvement populaire. L'illustration peut-être de ça, on pourra en prendre plusieurs, mais c'est le Front populaire de 1936. En 1936, il existe en France et dans l'Europe une montée des extrêmes droites. Et la peur que le fascisme, que l'extrême droite prennent le pouvoir en France, conduit la gauche à s'unir pour gagner les législatives. Et en 1936, la gauche gagne les élections de 1936 avec Léon Blum à sa tête. Il y a la légitimité des urnes. À ce moment-là, les ouvriers disent « le gouvernement est avec nous » et ils se mettent en grève avec occupation d'usines. C'est-à-dire on a le mouvement fort populaire. Ça débouche sur les accords Matignon. Les accords Matignon, qu'est-ce qu'ils vont nous permettre d'avoir? Le droit syndical, il va y avoir la création des conventions collectives, la création des délégués du personnel, et un des grands acquis de 36, les congés payés, c'est celui qu'on a retenu en premier, n'était pas dans le programme du gouvernement de Léon Blum. Ça va être le mouvement populaire et les accords Matignon qui vont conduire à obtenir ça. Et on s'aperçoit que par rapport à la démocratie, les citoyennes et les citoyens exercent leur pouvoir démocratique de deux manières complémentaires, en utilisant leur droit de vote d'une manière éclairée, mais alors ça c'est plus compliqué, on pourra y revenir à un autre moment, et en défendant et utilisant tous les autres droits démocratiques, le droit d'expression, le droit d'association, le droit de grève, le droit de manifestation. Ce qu'il faut entendre aussi, c'est que les acquis démocratiques ne sont jamais irréversibles. Ce qui a été acquis à un moment peut ne plus l'être plus tard, et on y reviendra lors d'une autre émission.
Paul, merci. On te retrouve prochainement pour un nouvel épisode de cette série Pour comprendre et débattre sur le thème de la démocratie. Merci.
Chanterons le temps des cerises et gais rossignols et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.